Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous savez, quand on parle de l'Église, beaucoup vivent dans la tradition et pensent que l'Église, c'est le bâtiment. Si vous voyez aujourd'hui, le bâtiment n'est pas très important. Ce qui est important, c'est les pierres vivantes que vous êtes, c'est les personnes, c'est la communion fraternelle, c'est ces temps de partage très importants devant Dieu et pour les hommes. Et moi, ce matin, je suis très heureux de prendre la parole après Anne-Lise, que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est important dans nos églises de savoir honorer nos aînés, honorer nos anciens. Actuellement, je vis en Afrique avec mon épouse, on a encore le respect des aînés. On a encore le sentiment que les aînés ont quelque chose à nous apporter, une expérience à partager. Ils ont du temps, ils peuvent prier. En Europe, tout va tellement vite que les aînés, on les écarte bien souvent. Et je trouve que c'est un moment privilégié pour nous ce matin de nous retrouver autour d'Anne-Lise, avec ce témoignage, et vous savez, témoigner. Toute la vie de Jésus a été un témoignage de l'amour de Dieu dans sa vie. Quand vous écoutez Anne-Lise, franchement, j'ai presque de la peine de prendre la parole et de la couper, parce que on est enseigné à chacune de ses paroles, elle vous cite des versets bibliques clés, elle vous montre que ce Jésus dont on va vous parler ce matin, ce n'est pas un personnage d'histoire, ce n'est pas un livre d'histoire pour les enfants, mais il est réel, il vous aime. Si vous êtes venu ici ce matin, ne croyez pas que c'est le hasard. Dieu vous a appelé. Il vous a appelé parce qu'il vous cherche. Il vous cherche parce qu'il vous aime. Il vous aime parce qu'il vous a créé. Il vous a créé pour lui, mais il vous a créé également pour les autres, pour être en bénédiction les uns pour les autres. Et pendant qu'Anne-Lise parlait, j'avais cette image d'un arbre. Ça symbolise vraiment la famille, ça symbolise véritablement l'Église. Le mot Église, c'est ecclésia en grec et ça veut dire l'assemblée. Le rassemblement de gens qui s'aiment, qui vivent ensemble. Et cette image de l'arbre, ça symbolise pour moi cette église. Les gens comme Anne-Lise, nos aînés, ce sont nos racines. Un arbre qui n'a pas de racines, si le vent vient, il le terrasse facilement. Une église qui oublie ses racines est une église qui se croit forte, mais qui sera balayée par la première bourrasque. Maintenant, les générations qui suivent, c'est le tronc, c'est les branches, c'est les feuilles et les fruits. C'est ce qu'on voit dans une église équilibrée, une église en bonne santé, c'est quand vous voyez toutes les classes d'âge représentées, qui montrent qu'une église, elle a une histoire, elle a un vécu. Elle ne vient pas de nulle part. Pierrick nous l'a rappelé, ce sont nos aînés qui ont construit ce bâtiment. Sans eux, où serions-nous? Ce sont nos aînés qui sont tenus à l'école du dimanche, qui nous ont partagé ce Jésus dont on vous parle ce matin. C'est eux qui ont prié pour nous, c'est eux qui nous ont construits. Et Jésus est notre Dieu est un Dieu de génération. Quand on en parle dans l'Ancien Testament, on dit toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les bénédictions de l'Éternel se déversent d'une génération sur une autre. Et combien il est important aujourd'hui, dans un monde en perte de repères, dans un monde qui part à volo, dans un monde où ce qui était mal il y a 10 ans devient bien, ce qui était bien devient mal, on a besoin de ces temps pour se retrouver, de ces points de repère, et on a besoin de nos aînés, des gens comme Anne-Lise, pour témoigner. Témoigner de ce qui s'est passé. Moi, je suis d'une génération qui n'a jamais connu la guerre. Une génération qui n'a jamais connu la déportation. Je comprends pourquoi elle est attachée à Israël. Elle a vécu ces déportations, ces familles déchirées. Et nous, si aujourd'hui ça nous arrivait, comment est-ce que nous nous comporterions? Quelle attitude nous aurions? Est-ce que ça serait chacun pour soi, comme le monde dans lequel on vit nous pousse à le croire, ou on se rappellerait qu'on est tous membres d'une même famille, enfants de Dieu? Est-ce qu'on aurait ce courage des pêcheurs danois de sauver des familles, d'accueillir des familles, des enfants, des femmes, des vieillards, avec qui on n'a peut-être pas grandi, avec qui on n'a pas la même histoire, mais tout simplement parce qu'on voit en eux l'amour de Dieu? Et vous savez, quand je me tiens sur la chair, je vois la gloire de Dieu en face de moi. Dans l'école que je dirige au Burkina, j'ai fait 2 ou 3 fois ce petit... c'est une petite histoire. J'ai dit, mais qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Et les enfants, ils sont beaucoup plus naturels que nous. Ils ont tous levé la main. Mais nous, on veut voir, on veut voir, on veut voir. Donc je dis, d'accord, vous allez la voir. Fermez les yeux. J'ai dit, je compte jusqu'à 3. Et attendez-vous à voir vraiment un miracle de Dieu. Ils ont fermé les yeux. Et je dis, maintenant, vous tournez la tête vers la droite ou vers la gauche. Vous ouvrez. Maintenant, ils s'attendaient à voir quelque chose d'exceptionnel. Il dit, ton frère, ta sœur, c'est la gloire de Dieu. On passe tellement de temps à se déchirer, tellement de temps à se bagarrer. On l'a entendu dans les familles, dans les couples, dans les foyers, dans les églises, dans nos entreprises. Mais au final, où est cet amour dont on, son amour, cet amour dont on parle et que tout le monde recherche? Tout le monde est en quête d'amour. Malheureusement, le monde vous fait croire qu'on peut obtenir cet amour à coup de millions, à coup d'argent, à coup de matérialisme. J'ai la nouvelle voiture, et une fois que tu l'as, ah, ça me dit plus rien. J'ai une femme, je change. Mais, et après, ça me dit plus rien non plus. Et on vient dans une société du tout jetable, du tout de suite et tout maintenant, et on oublie que Dieu est un Dieu de processus. Un Dieu qui travaille sur le long terme. Un Dieu qui vous veut, qui vous cherche pour avoir une relation d'amour avec vous. Dieu est un Dieu profondément relationnel. Il a besoin de vous entendre. Il a besoin de vous écouter. Il a besoin que vous ouvriez vos bouches. Dieu n'est pas loin. Souvent, on se dit que Dieu est caché, mais oui, Dieu est là. Il vous attend. Il nous a laissé sur cette terre son esprit. Et l'être humain, qu'on le veuille ou non, est profondément spirituel. On ne trouve pas le bonheur avec le matériel. On essaie de combler des vides, des trous. Et un philosophe célèbre nous a dit que quoi ? Tout être humain a en lui un vide qui a la forme de Dieu. Alors moi, ce matin, c'est plutôt un message d'exhortation et d'encouragement. J'aimerais simplement vous rappeler peut-être des choses que je pense qu'on est tous dans des sociétés judéo-chrétiennes. On a tous entendu parler de Dieu, dans notre enfance. On a tous entendu parler de Jésus. Mais j'aimerais simplement vous rappeler ce qu'il pense de vous. Le psaume 139, versets 13 et 14, vous dit quoi ? Psaume 139, versets 13 et 14. On va prendre votre version. « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Quand je vous regarde, je vois des créatures merveilleuses. On est tous originales. Il n'y a pas de photocopie. Dieu a mis à chacun d'entre vous sa dose d'originalité, comme pour Anne-Lise, son humour. D'autres, ça sera l'intelligence. D'autres, sera la sagesse. D'autres, ça sera la compassion. Mais combien d'entre vous se regardent le matin en disant « Merci Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. » Combien d'entre nous se rappellent ça ? Satan, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, va vous attaquer dans vos pensées. Il va te dire « Toi, une créature merveilleuse ? Regarde ta tête. Tu as vu les valises sous les yeux ? Les noirs disent « Je veux l'être blanc. » Les blancs en été disent « Je veux l'être noir. » On va bronzer. On n'est jamais content de ce que l'on a. Trop gros, trop maigre, un gros nez, des grandes oreilles. On oublie en fait que ce qui nous intéresse, on ne vit pas pour l'image qu'on donne aux autres. On vit pour l'image que Dieu a de nous. Voilà ce que vous êtes, des créatures merveilleuses. On peut continuer dans Jérémie 1, verset 5. On retrouve ce même genre de texte. « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. » À l'époque, il parlait à Jérémie, lui avait été établi pour être prophète pour les nations. Est-ce que vous êtes conscient ? La science va contre ça. Mais on ne peut pas toucher Dieu avec sa tête, on ne peut toucher Dieu qu'avec son cœur. Et Dieu te dit ce matin, dès avant la fondation du monde, je te connaissais. Avant même que tu sois conçu, je t'avais choisi. Tu n'es pas le hasard comme le monde veut te faire croire. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas venu sur terre simplement pour venir, disparaître, ne pas laisser de traces. Tu es le choix de Dieu. Dieu te dit tu es une créature merveilleuse ce matin. Il te dit également tu es mon choix. Tu es mon choix. Pourquoi ? Parce que avant ta naissance, je t'ai consacré. Le terme consacré est un terme très fort. Consacré veut dire mettre à part. Dieu vous a choisi dès avant la fondation du monde pour vous mettre à part, pas pour vous-même, pas pour votre égoïsme, pas pour votre ego, mais pour le servir, pour l'honorer, pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir vos frères et vos sœurs. Les gens qui font ça, les gens qui acceptent de rentrer dans cette démarche de dire « J'abandonne tout entre tes mains, j'ai compris. Tu m'as appelé parce que tu as besoin de moi. » Et Jésus vous dit ce matin « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je t'avais prévu pour une mission précise. Je t'ai établi. » Ça veut dire que je t'ai donné toutes les capacités. Je t'ai donné ton intelligence, une sagesse pour rentrer dans le rôle que j'ai prévu pour toi sur terre. Souvent, avec nos jeunes chrétiens en Afrique, je leur dis, mais vous choisissez des voies d'études, vous choisissez des travaux. Mais est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu, est-ce que tu m'as créé pour ça? Est-ce que je suis à la place pour laquelle tu m'as établi? Dieu vous établit pour une destinée particulière. Jérémie était prophète pour les nations. Et toi? Moi, je sais que Dieu m'a fait grâce depuis mon plus jeune âge. En sixième, je savais que Dieu m'avait établi pour être enseignant. D'abord, enseignant en histoire-géographie, c'est-à-dire dans le monde, mais également Dieu m'a donné ce don, et je l'ai découvert ici à Prefsin, où on m'a formé, éduqué, pour partager la parole de Dieu avec mes frères et avec mes sœurs. Mon frère, ma sœur, si ce matin tu es mal dans ta peau, si tu te sens rejeté, tu n'es pas à l'aise, il n'est jamais trop tard. Dieu est le Dieu de l'éternel recommencement. Dieu t'appelle ce matin, il veut te rappeler quel que soit ton âge. Il n'y a pas d'âge pour être inutile entre les mains de Dieu. Jusqu'à votre dernier souffle, Dieu attend quelque chose de vous. Et vous avez des modèles de cette assemblée. Vous voyez notre cher Brian, malgré ses difficultés, combien de fois Dieu l'a utilisé pour enseigner, encourager, reprendre. On pourrait dire qu'il a la retraite, mais comme il vous le dira certainement, avec Jésus, il n'y a pas de retraite. Le repos, ça sera au ciel, et tant qu'il peut tenir, et tant qu'il peut partager sa foi, il le fera avec la grâce de Dieu en lui. Et toi? Le ministère, c'est pas seulement être pasteur, c'est pas seulement se tenir devant la chair. Si tu es chrétien, quel rôle joues-tu dans ton église? Ou bien tu viens simplement chauffer les bancs le dimanche et tu vis comme tu veux la semaine? Si tu ne connais pas ce Jésus encore, pose-toi la question. Chaque métier que vous faites, enseignant est une vocation. Médecin est une vocation. Travailler avec les enfants est une vocation. Est-ce que vous êtes là dans le poste, dans l'église, dans le lieu où Dieu vous a appelé pour être établi et il vous a choisi? Et vous savez, pourquoi tant de gens sont amers, aigris? Les années passent, leur vie ne change pas. C'est les murmures, c'est les critiques. Ce sont des gens qui n'ont jamais trouvé la place à laquelle Dieu les avait appelés et les avait préparés. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta famille. Il a un plan pour ton église. Mais est-ce qu'on essaye encore de discerner la voix de Dieu? Est-ce qu'on essaye de se mettre à son écoute? Est-ce qu'on n'oublie pas de lui demander « Mais es-tu d'accord dans ce que je fais? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je gère mon argent comme tu le voudrais ?» Parce que le monde vous fait croire que vous êtes propriétaire. Vous ne possédez rien sur cette terre. Quand vous serez enterré, votre corps disparaîtra, vous n'emmènerez rien avec vous. C'est simplement votre esprit et votre âme qui partiront ou vers Dieu ou vers Satan. Et vous aurez des comptes à rendre de ce que vous avez géré. Ma femme, mes enfants, ma famille, mon travail, est-ce que j'ai été un modèle, un exemple? Et malheureusement, dans lequel on vit, on veut tout faire pour faire croire que Dieu est un mythe. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Mais moi, je vous promets que Dieu est vivant aujourd'hui encore. Je le vois à l'œuvre dans ma vie. Je le vois à l'œuvre dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Quand je vois le témoignage d'Anne-Lise, c'est un Dieu qui continue à travailler génération après génération avec les mêmes lois et les mêmes principes du royaume de Dieu. Mais souvent, nous oublions que nous avons que Dieu a un plan pour ma vie, un plan pour ma destinée. Et souvent, nous sommes aveuglés, paralysés par la société dans laquelle nous vivons. En Occident, et ça vient en Afrique aussi, on vit beaucoup plus pour l'image qu'on donne, pour ce qu'on est réellement. On vit pour le paraître, pour le matériel. Et qu'est-ce qui va faire que la voix de Dieu disparaît dans vos cœurs? Rappelez-vous tous, enfants, je suis sûr que tout le monde, à un moment donné, a prié Jésus dans cette église. Tout le monde a une petite relation, ses petites prières du soir en famille, avec les parents, les grands-parents. C'était quelque chose de précieux, c'était quelque chose de beau. Mais en grandissant, on se dit que non, c'est un mythe. C'est un mythe. Parce que le monde veut vous faire croire que le bonheur est pour tout le monde, partout et tout le temps. Vous avez vu la vie d'Anne-Lise? Il y a eu des temps de bonheur. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il vous donnerait le bonheur tous les jours de votre vie. Il vous a dit qu'il y aura des épreuves. Il y aura des tentations. On va vous éprouver. Mais je suis avec vous tous les jours de votre vie. C'est ça qui est fait la grande force de la vie d'Anne-Lise. Elle sait que ce Jésus ne l'a jamais abandonné. C'est le même Jésus qui a débloqué son intelligence. La Bible, c'est dedans. La Bible vous dit quoi? Le Saint-Esprit vous donnera l'intelligence en toutes choses. En toutes choses, c'est pas seulement dans la lecture de la Bible, c'est dans les mathématiques, dans l'anglais, etc., etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de ces paroles? Est-ce qu'il nous enterre, entre guillemets, à petit feu, ce qui nous détruit à petit feu? Malheureusement, c'est le péché. C'est ça dont a parlé Anne-Lise. Le manque de pardon, l'orgueil. Je cours l'argent au lieu de courir ma famille, de courir Dieu. Je ne sais pas pardonner. Je désobéis à la loi de Dieu. C'est l'impureté, l'adultère, les divorces. Tout cela n'est pas voulu par Dieu. Et quand on rentre dans un cycle où ce n'est plus la voix de Dieu que vous entendez, mais c'est les mauvais conseillers, c'est le monde, c'est ma chair, qu'est-ce qui se passe? Vous creusez un fossé entre vous et votre Père céleste. Et ce n'est pas le plan de Dieu qu'il y ait ce fossé. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, elle nous l'a rappelé, Anne-Lise, pour nous rapprocher de ce grand Dieu. Le seul sacrifice qui pouvait nous laver de nos péchés, c'est le sang de Jésus à la croix. Et on va lire un troisième verset dans Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aujourd'hui, nous sommes pris en otage par les grandes religions, par les grandes philosophies et les grands penseurs. Je peux vous promettre une chose, si Jésus revenait aujourd'hui, il ne serait pas catholique, il ne serait pas protestant. Il ne vous dit pas « Je suis venu pour créer une religion. Je suis venu pour vous montrer un chemin, une voie à suivre, une manière de vivre, une manière de vous comporter. Je ne suis pas venu vous amener des rites. Je ne suis pas venu vous faire plaisir à l'église, le dimanche, à Noël, les mariages, etc. Ne croyez pas qu'en allant à l'église, en allant vous confesser chaque semaine, vous verrez Jésus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Jésus, Jésus » qui verront la face de mon Père. C'est seulement ceux qui font ma volonté. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez ce chemin. Ce chemin, c'est le mot-clé dans ma vie aujourd'hui. Je ne cherche plus à faire plaisir à droite ou à gauche. Je cherche à faire plaisir à ce Jésus. Tu as tout fait pour moi. Tu m'as tout donné. Tu m'as racheté. Tu m'as restauré. Tu m'as redonné une relation avec mon Père. Tu as mis un équilibre dans ma famille, un équilibre dans mon travail, un équilibre dans mon église. Et tu fais la grâce de m'utiliser. En retour, je veux emboîter le pas dans ton chemin. Et rappelez-vous ce que dit la parole de Dieu. Le chemin qui mène à la vie éternelle, ce n'est pas le chemin large, ce n'est pas l'autoroute, ce n'est pas là où les gens se massent, ce n'est pas les grandes religions. C'est le chemin étroit qui s'appelle Jésus. Il est à la fois le chemin, et au bout du chemin, il est également la porte. C'est par lui que vous rentrerez, ou c'est par lui que vous resterez dehors. Et moi, je veux vous encourager. Dieu est un Dieu de l'éternel recommencement. Dieu est un Dieu qui pardonne, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. S'il y a des choses à régler dans vos vies ce matin, si vous ne l'avez jamais entendu, si vous ne l'avez jamais reconnu sa royauté sur votre vie, je vous en prie, mettez-vous à genoux ce soir, demandez pardon. Dieu, quand on demande pardon, restaure la relation. Le pardon retisse ou reconstruit un pont entre l'homme et Dieu. C'est important. Acceptez-vous vous-même tel que vous êtes. Refusez les pensées de l'ennemi qui veut dire que vous ne valez rien, vous êtes moins que rien. Non, je manque de confiance en moi. On m'a toujours critiqué depuis mon enfance. Il y a des gens qui sont, j'allais dire, étouffés par ce poids du péché, par ce poids de ces mauvaises pensées et qui traînent ça comme un boulet. Jésus, ce matin, veut vous libérer de tout ça. Il veut vous rendre votre liberté. Il veut vous rendre votre nature en Christ Jésus. Votre nature, tu es une créature merveilleuse. Je t'ai choisi, je t'ai établi et j'ai besoin de toi. Et on va lire un dernier passage dans Marc 10. On va parler de nous. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir que c'est de vous, mais maintenant que j'ai dit, ça va peut-être vous aider. Marc 10, au verset 46 à 53. Vous voyez, ça paraît austère. Hein. Oh là là, une grosse Bible toute noire. Il n'y a pas très joyeux. Mais quand vous l'ouvrez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un livre d'histoire. Vous allez vous rendre compte que c'est un trésor. Et quand on a un trésor, on creuse. Et quand on creuse, il y a des pelles qui remontent. Et Dieu, par son esprit, vous parle. Il ne va plus vous parler à l'oreille, comme à l'époque des Moïse et des Abraham. Il va vous parler à travers de sa parole. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin dans l'évangile de Marc? Marc 10, versets 46 à 53. On parle d'un aveugle. Je vous dis, c'est vous. Hein. Franchement, c'est moi aussi souvent. Un aveugle qui s'appelait Bartimée, guéri à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, c'est-à-dire maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. On peut lire ce texte au premier degré et se dire « C'est une jolie histoire. Ce Jésus, il est quand même sympa. Quand il voit les gens malheureux, il les a guéris. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut me dire pour moi aujourd'hui ?» Et c'est là que vous allez voir que quand l'Esprit de Dieu passe à travers un homme qui a le cœur ouvert, si vous êtes enseignable, il va vous parler d'une toute autre manière. J'ai reçu ce passage dans le culte que j'ai fait à Préfessin il y a 15 jours. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que je vais partager au culte d'Annelise ? Et Dieu m'a dit, tu vas revenir sur Bartimée. Pourquoi ? Parce qu'il me dit, l'aveugle Bartimée, là, c'est la plupart des gens dans ce monde. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles en esprit. Ils croient qu'ils voient, ils croient qu'ils comprennent tout dans ce monde, et ils oublient que ce monde est aussi bien spirituel qu'il est naturel. Quand vous allez vous soigner pour faire une radio, on n'a pas besoin de vous prouver que la radiographie marche ou que les ondes sont là. Vous êtes sûr que vous allez avoir une radio au final. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut toujours pousser Dieu, prouve-moi, montre-moi. Dieu te dit, mais vis simplement, mets-moi à l'épreuve. Et ce Bartimée, quand Jésus est arrivé à Jéricho, il a traversé la ville. Et il en est sorti avec ses disciples et une grande foule. Et on dit que ce Bartimée, mendiant aveugle, était au bord du chemin. Combien de nos frères, de nos sœurs, dans nos familles, dans nos églises, sont des mendiants aveugles au bord du chemin de la vie, mendiants de l'amour, mendiants de la compassion, mendiants un regard, mendiants une parole, mendiants un sourire, et on passe à côté d'eux sans les voir. Combien de nos frères et de nos sœurs sont aveugles ? Ils ne savent même plus pourquoi ils sont venus sur terre. Ils se demandent, est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Est-ce qu'il existe ? Qui va s'intéresser à moi ? Aveugles, Satan leur met un voile pour qu'ils ne voient pas la gloire et la grâce de Dieu. Et ce Bartimée, c'est le symbole de gens que vous connaissez certainement, qu'on a autour de nous. Il était assis au bord du chemin. Il était au bout du rouleau. Il pensait que sa vie était foutue, que personne ne pourrait le sauver, qu'il n'y avait aucune solution pour lui. Mais il a tendu l'oreille. Il a entendu le brouhaha de la foule qui s'avançait. Il a commencé à tendre l'oreille. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il est peut-être comme vous. Vous en avez entendu parler il y a longtemps. Vous avez entendu parler de ses miracles. Vous vous rappelez peut-être des églises où vous alliez petit, des camps que vous avez faits. Eh bien, ce Bartimée, il est comme vous. Il avait entendu parler de Jésus. Et quand ce jour-là est arrivé, le Saint-Esprit a permis qu'il revienne des pensées dans sa tête. Il se mit à crier. Pourquoi ? Parce qu'il se rappelle de tous les miracles que ce Jésus avait fait. Il en a entendu parler. Et aujourd'hui, c'est son jour. Peut-être aujourd'hui, c'est ton jour de te rapprocher de ce Jésus, de te rapprocher de ton Père, de te rapprocher de ton Dieu. Et qu'a fait Bartimée ? Il savait que c'était la chance de sa vie. Si Jésus passe, c'est fini. On a un proverbe en Afrique, on dit que la chance, elle est chevelue par devant, mais chauve par derrière. C'est-à-dire quelqu'un qui a des cheveux, on peut l'attraper. Alors, pour d'autres, c'est l'inverse. Hein, Emmanuel ? Et si jamais vous la laissez passer, c'est fini, on ne peut plus attraper un crâne chauve. Il faut savoir discerner le temps de Dieu dans vos vies. Pour certains, Dieu vous parle à 20 ans. D'autres, ça peut être 80, 75. Mais Dieu ne finit jamais de parler et de vous appeler. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a crié. Il a crié son désespoir. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu, j'en ai marre, j'en peux plus de la vie. Pourquoi mon mari est comme ça ? Pourquoi personne ne me regarde ? Pourquoi je suis au chômage ? Pourquoi j'ai échoué dans mes études ? Dieu est là pour t'écouter. Il veut une relation. Expose-lui ton problème. Parle-lui. Tant que tu ne parles pas, rien ne se passera. Dieu est un Dieu de la parole. Dès l'origine, Il a tout créé par quoi ? Sa parole. Il t'a donné une arme, une clé qui est ta bouche, ta langue. Utilise-la pour parler. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne sait peut-être pas très bien qui est ce Jésus, mais il sait que c'est sa solution et sa chance. Et regardez, dans le monde dans lequel on vit et dans nos églises, plusieurs le poussaient vers Jésus. Ah, vas-y mon gars, il t'appelle. Non. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. On n'aime pas être bousculé dans notre vie quotidienne, dans notre confort. Si quelqu'un fait trop de bruit, on le met de côté, on le classe. Si il y a des personnalités scandaleuses dans nos familles, on met sous le tapis. Les mauvaises histoires, on n'en parle pas. Pourtant, c'est ces gens-là qui sont en souffrance. Et Jésus vous dit qu'il n'est pas venu pour appeler des justes, mais pour appeler des gens en mauvaise santé, des malades spirituels. Et combien sont malades spirituellement aujourd'hui dans nos pays ? Combien sont en souffrance, sous les apparences de sourire, sous les apparences que tout va bien, mais dans le foyer, dans le cœur, c'est le désespoir. Et il crie encore plus fort avec Jésus, la prière persévérante du juste est d'une grande efficacité. Continuez à prier. Dieu ne vous répond pas tout de suite. Il veut voir si tu es sincère. Il veut voir ton cœur. Parle, crie, appelle-le. C'est ce qu'a fait Bartimée. Et vous allez voir que les gens bien intentionnés dans l'église veulent faire taire les gens en souffrance. Ça gêne les gens en souffrance. On n'est pas prêt à accueillir l'alcoolique. On n'est pas prêt à faire la place aux drogués. On ne sait pas comment faire. Et comme on ne sait pas comment faire, on les pousse dehors. Non, accueillons-les. Faites comme ce Jésus dont on parle et qui va dire « Je m'arrête. » Sur ton cas personnel aujourd'hui, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ta souffrance. Mais je peux te promettre une chose ce matin. Si tu cries à Dieu de tout ton cœur, le ciel va s'arrêter pour toi. Jésus va s'arrêter pour toi. Imaginez le grand Dieu dans le ciel. C'est du panoramique grand cinéma. Quand tu commences à crier à Dieu, le ciel commence à zoomer sur toi. Ce grand Dieu t'aime individuellement dans ce grand collectif dans lequel on est. Il s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse à tes sentiments, à tes souffrances, à tes problèmes et à tes joies. Et Jésus s'est arrêté. Et il veut peut-être s'arrêter pour toi ce matin. Parce que ce message, il est peut-être pour toi. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu la connaît. En lui disant, donc Jésus l'arrêta et dit, appelez-le. Ce matin encore, c'est peut-être pas la première fois que Dieu t'appelle. Tu as peut-être résisté pendant longtemps. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je t'appelle encore une fois. Mon fils, ma fille, je t'ai tellement aimé que j'ai envoyé mon fils Jésus mourir à la croix pour toi parce que je t'aime et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Appelez-le. Et les mêmes qui voulaient le repousser, maintenant, ils vont chercher Bartimée. Viens mon pote maintenant, c'est bon, tu peux venir. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce passage est pour vous ce matin. Dans votre situation, prenez courage mon frère ou ma sœur. Mais ne reste pas assis dans tes problèmes. Ne reste pas assis dans tes difficultés. Avec Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'immobilisme, c'est un Dieu du dynamisme. Dieu fera sa part si tu fais la tienne. Et il dit quoi ? Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage. Prends courage, fortifie-toi. N'aie pas peur de la vie. N'aie pas peur des épreuves qui sont devant toi. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Mais maintenant, lève-toi. C'est une décision personnelle. Personne ne peut la prendre à ta place. On peut te pousser, on peut te parler, on peut prier pour toi, mais au final, c'est toi qui te lèveras ou qui resteras assis, qui sera acteur de ta vie ou spectateur. Parce que Jésus t'appelle. L'aveugle, j'espère que c'est vous ce matin, son choix a été vite fait. On dit que l'aveugle a jeté son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il a jeté son manteau. Ce manteau qui l'oppressait, c'était quoi ? Son péché, son manque de pardon. C'était sa cécité spirituelle. C'était peut-être les mauvaises paroles, le vol, tout ce qui le séparait de Dieu. Enlevez ce manteau de péché de vos cœurs et de vos vies. C'est le jour ou jamais aujourd'hui. C'est le jour ou jamais ce matin. Rejetez ce manteau qui vous étouffe, qui vous empêche d'avancer dans la vie, qui vous empêche de connaître le véritable bonheur, le bonheur de Dieu. Et l'aveugle a jeté son manteau et se levant d'un bond, qu'est-ce qu'il a fait ? On peut revenir sur le Jean 14, verset 6. Il s'est levé et il vint vers Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas aller dans la synagogue. Il a compris qu'il ne fallait pas suivre les grands chefs chrétiens, quels qu'ils soient. Il a compris qu'en fait, Quand Jésus a parlé, je suis le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Ne cherche pas à suivre un évêque, un pape. Ne cherche pas à suivre un grand homme de Dieu protestant ou une philosophie quelconque. Ils ne pourront t'apporter, c'est comme du Canada Dry, ça ressemble à, mais ce n'est pas. Le seul qui a la vérité et la vie, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se lever et de le suivre. Et toi ce matin, est-ce que tu vas continuer à rester statique, assis, chauffer les bancs d'une église et la vie de la semaine, tu fais ce que tu veux? Ou tu vas comprendre que ce Jésus-là, c'est lui qui va guider ta vie tous les jours de ta vie. Pas le dimanche seulement, du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. C'est lui qui va changer ton cœur. C'est lui qui va te parler à travers sa parole. C'est lui qui va te relever quand ça ne va pas. C'est lui qui va créer des occasions, des opportunités dans ta vie. C'est lui qui va tenir ton mariage. C'est lui qui va tenir ton foyer et l'éducation de tes enfants. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Non, mais là, Jésus, quand même, tu déconnes. Tu dis que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu me demandes qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu vois pas ma tête, non? Je suis aveugle, je vois rien. Combien d'entre nous, là, on agirait comme ça, ou on agit comme ça avec Dieu? On sait qu'il voit nos problèmes et on en veut à Dieu parce qu'il fait rien. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'agis pas? Tu n'agis pas parce que tu parles pas. Il n'agit pas parce que tu pries pas. Il n'agit pas parce que tu n'ouvres pas la bouche. Et regardez ce que Jésus attendait. Il attendait simplement le pas de foi de cet homme qui l'ouvre sa bouche. Que veux-tu que je te fasse? Qu'a répondu l'aveugle? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Moi, je prie ce matin pour que beaucoup parmi nous recouvrent leur vue spirituelle. Je ne parle pas de la vue physique. Je parle de la vue spirituelle, la vue de l'esprit. C'est un monde qui existe et qui est plus réel que celui dans lequel vous vivez. C'est un monde réel. Un monde dans lequel il y a des combats. Un monde dans lequel il y a des attaques. Un monde dans lequel Dieu vous demande de vous impliquer. Votre corps, là, regardez les efforts qu'on fait pour notre corps. On se lève, on s'habille, on se lave, on achète des beaux vêtements. Mais notre esprit, est-ce qu'on le nourrit de la parole de Dieu? Est-ce qu'on prie? Pourtant, la prière, on dit que c'est la respiration de l'âme. Depuis quand ton âme, elle est en train d'étouffer? Depuis quand ton âme est en train de mourir? Mais le Seigneur te dit, ouvre ta bouche ce matin, ce n'est pas trop tard. Et à peine il a ouvert la bouche, Jésus n'a pas imposé les mains, n'a pas prié pour lui. Jésus est comme ça, il est d'une simplicité d'évangile. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Crois dans ton cœur, proclame de la bouche et reçois ton miracle. Et c'est exactement la vie résumée d'Anne-Lise. Elle a reçu ce miracle de Dieu jusqu'à sa 80e année. Ça n'a pas été rose tous les jours, mais elle a cru. Elle a fait un pas après l'autre. Elle a refusé de s'asseoir. Elle a continué à marcher. Aussitôt, elle recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous avez vu que Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit Marie. Il n'a pas dit Bouddha. Il n'a pas dit les saints. Il n'a pas dit les chefs religieux des grands philosophes. C'est Jésus seul. C'est lui seul qui peut restaurer le lien entre vous et Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Mais moi, j'ai envie de croire que ce matin, il y a des gens parmi vous qui ont été touchés par le message, qui ont été touchés par l'évangile. Et qui se rappelleront, nul ne vient au Père que par moi. Sans Jésus, c'est impossible de voir le Père. Et j'aimerais vous inviter, si vous avez vraiment été touché, si vous avez quelque chose sur le cœur, à rejoindre nos aînés, nos anciens de l'Église, pour qu'ils puissent vous conduire dans une prière de repentance pour restaurer ce lien avec votre Père. Et soyez sûrs d'une chose, il n'est jamais trop tard avec notre Jésus. Et ce Jésus dont je vous parle, je marche avec lui, je vis avec lui quotidiennement. Et c'est vrai, il est réel. Les choses se passent. La manière dont je prêche, c'est pas moi. C'est pas moi. La première fois que j'ai prêché ici, j'avais tout préparé. J'avais mon truc, je lisais, etc. C'est l'Esprit qui parle, parce qu'il connaît vos besoins. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il nous donne une belle journée avec Anne-Lise, et que ce soit un temps vraiment où la grande famille des enfants de Dieu se retrouve pour passer un moment de joie autour de nos aînés. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne.
Merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci Anne-Lise. Merci Jean-Daniel aussi. Merci au groupe de louanges. Je partage avec vous les annonces. Alors la première annonce, c'est de ne pas partir trop vite. parce qu'après le culte, on aura le plaisir de partager un temps d'apéritif dehors. Il fera un petit peu plus frais. Et c'est important aussi de prendre du temps pour apprendre à se connaître et partager aussi ensemble. La semaine qui vient est une semaine particulière pour l'Église, puisqu'on aura donc le club d'été, une sorte de centre aéré pour enfants, où on accueille environ 90 enfants. Donc voilà, une semaine bien remplie. Et cet après-midi, on a donc l'installation de la salle Gaston Laverrière à 17h. Voilà, merci à tous ceux qui participent d'être présents. C'est aussi l'occasion de faire une dernière fois le point pour la semaine et de démarrer de la bonne façon. Pour ceux qui aiment le foot, je sais pas, il y en a peut-être parmi nous, si certains désirent vivre ensemble le dernier match, il sera projeté ici, c'est Mathieu qui a organisé ça, voilà. C'est peut-être l'occasion, plutôt que de le faire chacun chez soi, de le faire aussi ensemble. Mercredi, au milieu de la semaine de club d'été, une réunion de prière. C'est important de prier aussi pour ce club d'été, que Dieu se manifeste, que Dieu se révèle aussi pendant cette semaine. Et c'est donc à 17h30, après Saint, à la salle Gaston Laverrière. Je vous laisse sinon voir le reste des annonces. La semaine d'après, il y aura la rencontre des jeunes adultes, le mardi 19 à 20h30. Et puis le mercredi, un petit peu comme chaque année ces dernières années, dans le cadre de l'église de Saint-Genis, il y a des jeunes qui se rassemblent, qui font un camp et qui préparent une sorte de petite comédie musicale qui va se produire donc le mercredi 20 sur le parvis devant la salle Jean Monnet à Saint-Genis. Et donc il y aura deux représentations, une première à 17h et une deuxième à 20h. Voilà, j'ai mis un petit flyer au fond à droite là, si vous voulez plus d'informations. Sinon, des nouvelles de nos personnes qui souffrent dans leur santé. Alors on peut déjà penser à Brian et Hélène qui sont parmi nous ce matin. Que Dieu les fortifie, les renouvelle, les accompagne jour après jour. Pensons encore à Roland. Roland a passé un IRM vendredi matin à Annecy. Il m'a dit c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est long, c'est difficile à vivre, mais bref, rien de particulier n'a été trouvé à cet IRM. Il est maintenant en attente d'un rendez-vous avec la cardiologue qui le suit, à Annemasse, pour la suite à envisager. Et voilà, continuons à prier pour lui. Il a toujours les mêmes médicaments. Qui baisse la tension artérielle, donc il est fatigué, il ne doit pas non plus faire d'efforts, donc voilà, c'est un temps particulier. Pensons vraiment à lui, puis aussi à Damaris. Didier est toujours hospitalisé, donc toujours hospitalisé de façon à reprendre des forces. Voilà, prions aussi que Dieu lui permette de reprendre des forces et aussi qu'il soit gardé dans la paix que Dieu donne. Ça, c'est aussi important. Je vais maintenant laisser la place à Philippe pour 2 minutes pour nous donner des nouvelles du projet Anacaona.
Bonjour à tous. Je vous transmets les nouvelles de Mélanie Gueser qui a fait une petite escale chez nous cette semaine. Elle est de nouveau sur Paris, elle repart demain. Vous savez qu'elle travaille en Haïti où elle a créé une association pour recycler des savons et les donner à des écoles et en vendre aux hôtels pour arriver aussi un peu à vivre. Donc, elle vous a amené le prototype ou les premiers qui sont faits là, puisque l'Église, vous avez décidé de l'aider, de la soutenir. Je vais les poser au fond, là. Il y a 3 sortes de savons. C'est tout fait à la main, du début à la fin. J'ai acheté des râpes à fromage. Nous, les Suisses, on connaît bien ça. Je lui en ai donné tout plein pour râper les vieux savons qu'ils récupèrent pour en faire des nouveaux. Ils sont là. Vous irez, ça sent plusieurs choses. Elle vous embrasse tous. Continuez à... Vous pourrez surveiller pas maintenant, mais si des fois quelqu'un en a besoin, il peut le prendre. Et elle vous embrasse tous. Continuez à prier pour elle, à la soutenir. Le travail est bien parti. Elle est contente avec son ami. Merci.
Alors, comme chaque semaine aussi, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. Et cette semaine, on vous invite à prier pour la Colombie. Voilà, donc en Amérique du Sud, c'est ici, au nord de l'Amérique du Sud. Et puis je vous invite à vous lever, et je vous lis encore deux derniers versets, qui est dans Psaume 103. « L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. » Et on partage encore un dernier chant, choisi par Anne-Lise, « À toi la gloire ».